David Servenay, journaliste et scénariste, vous avez sorti il y a peu de temps une bande dessinée, Une affaire d'État. En quoi donc l'affaire Borel dont vous parlez dans cette bande dessinée vous a-t-elle séduite pour la mettre en lumière et la faire découvrir au lecteur ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Bon, moi, c'est une affaire que je suis en tant que journaliste depuis maintenant une quinzaine d'années. À peu près depuis qu'elle est apparue médiatiquement, on va dire, au tournant des années 2000-2001. Donc j'ai écrit beaucoup d'articles. À l'époque, je travaillais à Radio France Internationale. J'ai fait des papiers, des reportages pour la radio. Et à l'époque aussi, comme on commençait à avoir un site internet assez actif et que ce nouveau média m'intéressait, j'ai fait un certain nombre d'articles là-dessus. Après, je suis passé sur Rue 89, un site internet. J'ai continué à travailler sur cette affaire. Et puis depuis que je suis freelance, je continue aussi à la suivre. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est que fort de mon expérience à la revue dessinée, donc où on fait de l'enquête et du reportage en bande dessinée, je me suis rendu compte que la bande dessinée avait pas mal de qualités en tant que média, que support, pour traiter justement ce type d'affaire. C'est-à-dire une affaire qui est assez complexe, hein, c'est une affaire judiciaire qui est... faut s'imaginer, le dossier judiciaire Borel, c'est 30 tomes de 1000 pages par tome. Donc c'est énormément de documents, d'informations, et il fallait arriver à synthétiser l'essentiel de ces informations en quelques dizaines de pages. Et la BD, d'une certaine manière, y parvient, sans simplifier les choses, mais en leur donnant comme ça une forme, j'allais dire, immédiatement compréhensible, et en ayant un panorama un peu général de l'affaire. Et c'est ce qui me semblait important, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on parle de l'affaire Borel, 22 ans après les faits, on se rend compte que, au mieux, les gens ont 2-3 vagues notions sur oui, il s'agit d'un juge mort à Djibouti en 1995, dans des circonstances un peu particulières, mais en général, sans en savoir beaucoup plus. Et au pire, les gens ne connaissent même pas le nom de Bernard Borel, alors que c'est quand même le troisième magistrat sous la Ve République à être assassiné, à être mort en service, comme dit l'expression officielle. Donc voilà, moi, il me semblait intéressant de pouvoir reparler de cette affaire, aussi parce qu'il y avait de nouveaux éléments, sous la forme d'une bande dessinée, c'est-à-dire en rendant cette histoire accessible pour un public peut-être un peu plus large que le public qui s'intéresse traditionnellement à travers la presse à ce genre d'histoire.
Tout à fait, c'est tout à fait ça. Je me sens très concernée de ce côté-là. Donc une affaire d'État qui vous a toujours touchée.
Oui, parce que... pour deux raisons. D'abord, parce que des vraies affaires d'État, quand on est journaliste enquêteur, en réalité, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire, à un moment donné où l'ensemble de l'appareil de l'État, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, parfois le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, des juges, des gendarmes, des policiers, vont se mettre à alimenter dans une forme de dysfonctionnement une version qui ne correspond pas à la réalité, d'accord ? Autour d'un... Alors ça peut être un fait divers, peu importe l'histoire, mais... Et à partir de là, si vous voulez, il y a une mécanique qui se met en branle et qui va viser à écraser tous les individus qui pourraient représenter un grain de sable. Voilà. Alors là, c'est l'histoire d'un homme qui meurt. On prétend qu'il s'est suicidé contre toute évidence. C'est-à-dire que dès le départ, les constatations sur la scène de crime ne sont même pas terminées, qu'il y a un télégramme diplomatique qui part de la représentation française à Djibouti annonçant que M. Borel s'est suicidé. Bon. Ce qui pose quand même un petit problème méthodologique. Et cette version officielle du suicide va mettre des années à tomber. C'est-à-dire qu'il va falloir des années d'un combat acharné de sa veuve Elisabeth Borel pour renverser en quelque sorte le cours du dossier. Et donc faire enfin admettre de manière officielle qu'il s'agit bien d'un assassinat, puisque le suicide est impossible. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que dans ce genre d'histoire, il y a aussi très souvent aujourd'hui un volet médiatique. Et en tant que journaliste, alors là encore, quand on fait des enquêtes, on a régulièrement affaire à des pressions, au mieux, et au pire, parfois, des menaces, des intimidations. Ce qui, d'une certaine manière, fait partie du jeu, parce qu'on met en cause des pouvoirs, des gens, donc les gens se défendent,
plus ou moins adroitement, mais voilà. Et donc ça, on y est en quelque sorte un petit peu habitué. Ce qui est beaucoup plus rare, et c'est ce qui m'est arrivé dans cette histoire, c'est d'avoir... donc il y a ces pressions qui s'exercent, on comprend, enfin moi j'ai à l'époque des faits que je décris dans la bande dessinée, je comprends qu'il y a des gens qui souhaitent m'écarter du traitement de ce dossier sur ordre d'un pouvoir, on va dire, je mets un peu avec un point d'interrogation, mais à l'époque je subodore qu'il s'agit évidemment de soit de l'Élysée ou du ministère des Affaires étrangères, en tout cas des plus hautes autorités françaises. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est que je vais avoir la preuve quelques années plus tard en obtenant des télégrammes diplomatiques, des notes, par exemple du conseiller Afrique de Jacques Chirac à l'époque, la preuve noir sur blanc. Puisqu'il est des pressions qui s'exercent à ce moment-là sur moi, puisqu'il est écrit dans ses notes, il serait bon d'écarter ce journaliste de RFI qui traite l'affaire Borrell. Voilà, et ça, c'est très rare d'avoir ça écrit noir sur blanc. Donc voilà, et de pouvoir retracer tout le circuit de ce message qui part du président de la République de Djibouti, qui se plaint à l'ambassadeur. L'ambassadeur transmet au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères transmet à l'Élysée. Ça remonte jusqu'au président et ça redescend après jusqu'au PDG de RFI, puis du PDG de RFI à la directrice de la rédaction, puis au chef de service, puis moi. Voilà, donc c'est intéressant de voir aussi ce circuit de l'information où, encore une fois, on a la démonstration, à un moment donné, qu'un pouvoir politique ne va pas hésiter à faire pression aussi sur les journalistes.
Donc les investigations ont été très fastidieuses pendant des années.
Alors, elles l'ont été surtout pour les juges. Hein. Enfin, alors... Il faut faire la part des choses. Depuis le début de cette affaire, il y a une dizaine de magistrats instructeurs qui se sont relayés sur ce dossier. Bon. Dans cette dizaine de magistrats instructeurs, il y en a qui ont très mal fait leur travail. Et d'ailleurs, il y en a deux qui ont été dessaisis, ce qui est quand même une décision assez rare pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire, comme on dit. Il y en a d'autres qui ont plutôt bien travaillé, de manière efficace, c'est-à-dire qu'ils ont mené... des actes d'enquête et une enquête de manière impartiale, à charge et à décharge, et de fait ils ont fait avancer le dossier. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont, en gros, qui n'ont pas fait grand chose. Bon, ils ont un peu travaillé dessus et voilà, et puis le temps s'écoule. À leur décharge aussi, ils n'ont pas que ce dossier à traiter, il y en a beaucoup d'autres. Ce dossier, il est compliqué, encore une fois, parce qu'il est un peu tentaculaire. Et à chaque fois, il faut imaginer qu'à chaque fois qu'un nouveau juge d'instruction arrive dans un cabinet d'instruction, il met à peu près au moins un an à prendre connaissance de ces dossiers. Et celui-ci particulièrement, ça veut dire qu'en fait, pendant un an, il ne se passe rien parce que le magistrat juste se plonge dans le dossier, essaye de le comprendre et de le reprendre en cours de route. Donc tout ça a fait que cette affaire a beaucoup traîné, en quelque sorte, et que moi, il m'a toujours semblé important de pouvoir... à un moment donné, servir de point d'appui. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une particularité des affaires d'État, c'est que à un moment donné, la seule solution qu'a une victime pour contrebalancer justement toute cette mécanique de l'appareil d'État, ça va être de s'appuyer sur les médias et sur l'opinion publique. Parce que finalement, c'est la seule arme dont va disposer Élisabeth Borrell, à un moment donné, pour apporter la contradiction dans le cadre de l'enquête, pour montrer que un certain nombre d'actes qui sont soit ne sont pas réalisés, soit sont mal réalisés, et que donc il faut faire avancer l'enquête. Et pour faire ça, et notamment on en parle longuement dans le livre avec Thierry Martin, c'est que pour faire ça, par exemple, il faut s'appuyer sur les aspects médico-légaux, donc les analyses de médecine légale. Et pour arriver à faire savoir à l'opinion publique et au magistrat instructeur que ces éléments sont des éléments valables, à un moment donné, il faut communiquer auprès des médias, auprès de l'opinion publique. Et c'est la seule arme, en quelque sorte, qu'Élisabeth Borrell a contre tout cet appareil d'État. Et moi, j'estime, mon rôle de journaliste à ce moment-là, c'est d'exercer une forme de contre-pouvoir, c'est-à-dire non pas de prendre parti pour Élisabeth Borrell, mais de dire, cette dame qui est en position de victime dans cette histoire, à chaque fois qu'elle dit des choses, ça s'avère juste contre l'avis souvent du parquet ou des enquêteurs, etc. Et elle démonte les dysfonctionnements de l'institution. Et moi, j'estime que mon rôle en tant que journaliste, c'est d'expliquer, d'exposer et les dysfonctionnements qui posent problème. Quoi.
le découpage dans cette bande dessinée, le choix des chapitres avec des titres, c'est pour démontrer justement ces différents faits ?
Alors, je ne veux pas du tout me défausser de la responsabilité de ce découpage. Au contraire, je le revendique totalement, mais je veux l'attribuer à César. Et César, en l'occurrence, c'est Thierry Martin, le dessinateur. Je dis ça parce qu'il est important de souligner que ce livre n'aurait pas cette forme sans l'apport que Thierry lui a donné. Thierry Martin, c'est un dessinateur qui vient de l'animation au départ. Il a fait beaucoup de storyboard, donc ce découpage qu'on fait notamment pour faire des dessins animés, mais aussi pour faire des bandes dessinées en case à case, et qui va servir à répartir bien l'équilibre entre texte et image. Et en fait, comme Thierry a ce passé de storyboarder, il a tout de suite et rapidement et avec un grand talent trouver des solutions narratives pour qu'on ne s'y perde pas. Je vous donne un exemple. Dans cette histoire, il y a énormément de personnages qui appartiennent pour partie, qui sont des hauts fonctionnaires français ou djiboutiens. Il y a le Bernard Borel, évidemment. Il y a des témoins. En tout, je ne les ai pas comptés, mais il y a au moins une trentaine de personnes, je pense, qui sont évoquées dans cette histoire. On sait que quand on fait une bande dessinée, quand on raconte des histoires d'une manière générale, c'est beaucoup plus facile de raconter une histoire à travers un personnage, un destin, plutôt qu'à travers une trentaine, de faire ce qu'on appelle un récit choral dans le jargon. Et là, il a trouvé plein d'astuces en termes de narration et de mise en page qui font qu'on ne s'y perd pas. Et voilà, alors je ne vais pas tout raconter, mais faut lire le livre. Mais il a organisé le jeu des personnages comme un jeu de cartes et qui permet de chapitrer l'ensemble. Et du coup, je pense, en tout cas c'est ce que disent les lecteurs, c'est qu'on arrive à s'y retrouver. Et ça c'était vraiment une intention qu'on avait au départ. Enfin, moi j'avais un grand souci à ce niveau-là, c'était de faire très pédagogique, très clair, de façon à ne pas perdre le lecteur. Voilà. Et de façon, encore une fois, à ce que le lecteur ait une vision à la fois précise sur les faits et les éléments qui, moi, me semblaient les plus importants à souligner, et en même temps d'avoir une vision d'ensemble. Parce que si on n'a pas cette vision d'ensemble, on ne comprend pas en quoi cette affaire est un vrai scandale. Si on a cette vision d'ensemble, alors là, tout d'un coup, c'est vertigineux et on se dit non, parfois on se dit c'est pas possible, tellement ça a l'air d'être un polar, mais en réalité c'est pas un polar, c'est la réalité qui s'est passée comme ça. Et ça, on le doit beaucoup au travail de Thierry, qui a vraiment totalement pris en charge cet aspect du découpage et de la scénarisation.
Très bien. Comment Elisabeth Borel a-t-elle accueilli ce projet ?
Alors, au départ, pour être honnête, avec un peu de circonspection, parce que elle connaît pas grand-chose à la bande dessinée au départ. Et puis, je pense qu'elle a eu un petit peu le réflexe de se dire, en gros, si c'est de la bande dessinée, ça va pas être très sérieux. Alors elle me faisait confiance parce qu'on se connaît depuis un certain temps. Elle sait que, a priori, je travaille plutôt sérieusement. Et en fait, je pense que ce qu'elle a découvert au fur et à mesure du résultat de ce qu'on a fait avec Thierry, c'est que, en fait, elle a compris qu'on pouvait, via le langage de la bande dessinée, rendre son histoire et celle de son mari accessible à un public vraisemblablement beaucoup plus large que le public qui lit les journaux, qui s'intéresse dans la presse traditionnelle à cette affaire. Et du coup elle l'a très bien reçu, parce que, encore une fois, parce que sur le fond c'est juste, les informations sont précises, vérifiées, etc. Et en même temps, sur la forme, il y a une forme de fluidité, de simplicité dans le bon sens du terme de lecture, qui fait que on arrive à s'y retrouver et à comprendre, encore une fois, pourquoi cette affaire est vraiment scandaleuse et pourquoi c'est un peu une tâche dans l'histoire de la Ve République. Encore une fois, faut bien comprendre que Bernard Borel, c'est le troisième magistrat assassiné en service, et que la justice, qui est quand même le corps auquel il appartenait, n'a pas mis tout en œuvre pour aboutir à la vérité, pour élucider les circonstances de sa mort, ce qui est quand même assez tragique.
Vous a-t-elle suivi tout au long de ce projet, de ce travail ?
Elisabeth Borel ? Non, pas particulièrement, non, parce que moi j'ai, encore une fois, j'ai toujours eu des relations comme avec toutes les sources qu'on peut avoir, c'est-à-dire que moi, à chaque fois qu'Elisabeth Borel me dit quelque chose, je ne le prends pas pour argent comptant. Je m'interroge, je vérifie, je recoupe. Je fais un boulot de journaliste classique. Après, Non, encore une fois, enfin moi je pense, alors ce qui est toujours utile, c'est que le livre permet aussi évidemment de reparler de cette affaire aujourd'hui. Et c'est important d'en reparler parce que depuis cet été, le parquet de Paris, donc le procureur de la République, a reconnu officiellement dans un communiqué de presse que l'hypothèse criminelle était désormais incontournable. D'accord ? Il s'agit bien, Bernard Borel a bien été assassiné, c'est un crime. Bon. Donc voilà, donc, la prochaine étape c'est quoi ? C'est d'arriver à identifier les exécutants. On sait à peu près qui c'est, disons qu'il y a des gens qui sont très fortement soupçonnés, même s'ils n'ont jamais été mis hors d'état de nuire, si je puis dire. Et on a une idée sur les commanditaires qui est aussi assez précise. La seule chose qu'on continue d'ignorer vraiment, c'est la question du mobile. Pourquoi Bernard Borel a-t-il été assassiné ? Et là, on sait que des réponses existent. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui savent, notamment dans la magistrature, chez un certain nombre de hauts fonctionnaires qui étaient en poste à Djibouti à l'époque ou qui étaient dans des circuits qui ont eu à traiter cette histoire. Et puis on le sait aussi parce qu'il y a beaucoup de notes des services de renseignement sur la période qui va de 1994, donc avant la mort de Bernard Borel, jusqu'en 1997, le début de la cohabitation Chirac-Jospin. Dans toute cette période, aucune des notes des services de renseignement n'a été déclassifiée. Alors, ça pose un problème parce que, au nom donc des intérêts supérieurs de la nation, etc., ça pose un problème parce que ça veut dire que dans ces notes, il y a des informations qui peuvent compromettre éventuellement les intérêts de la nation, mais qui vraisemblablement nous permettraient de comprendre pourquoi il a été assassiné. Voilà. Et là, il y a un enjeu, j'allais dire, à la fois politique, puisque il ne faut pas oublier aussi que les protagonistes de cette histoire, pour certains, sont toujours en poste. Et puis, il y a aussi, je pense, un enjeu historique, symbolique, qui fait qu'il faudrait peut-être quand même, au bout de 22 ans, qu'un certain nombre de ces autorités actuelles change un peu de registre et se décide enfin à faire la lumière sur cette histoire. Quoi.
Quelle a été la réaction donc d'Elisabeth Borel à la lecture, par contre, de cette bande dessinée ?
Encore une fois, je pense qu'elle elle pouvait avoir quelques préventions au départ, mais à la sortie, elle a trouvé ça, encore une fois, juste et intéressant. Évidemment, elle, compte tenu de la plus récente actualité, elle en a aussi profité pour lancer un appel à l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, qui, pour l'instant, ne s'est pas du tout intéressé à cette affaire, ce qui peut paraître un petit peu étonnant parce que Emmanuel Macron, comme candidat à la présidence de la République, s'est affirmé comme le candidat de l'autorité, de la souveraineté de l'État français. Et assassiner un magistrat, c'est quand même s'en prendre à la souveraineté, à l'autorité de l'État français. Donc, moi, je ne comprends pas bien aujourd'hui pourquoi Emmanuel Macron ne s'intéresse toujours pas à cette affaire.
Ouais. D'autres investigations, donc comme vous l'avez dit, des expertises sont en cours pour apporter des précisions sur le scénario de Bernard Borel, de la mort de Bernard Borel. Vous les suivez donc toujours ?
Les hypothèses, on l'évoque à la fin du livre, puisque le livre se termine par une longue interview d'Elisabeth Borel et d'un de ses avocats, Olivier Maurice. On essaie de prendre un peu de recul justement par rapport à tous ces aspects. Elisabeth Borel a une conviction, c'est que sur le mobile, c'est que pour elle, le mobile serait lié à une affaire de trafic de matières fissiles, de matières nucléaires. Elle l'argumente de manière parfois assez convaincante, parfois, moi, il me semble un peu moins, mais voilà, ce n'est que mon avis. Encore une fois, nous, on ne tranche pas dans le livre parce que moi, j'ai pas d'éléments me permettant d'être affirmatif. Il y a différentes hypothèses qu'on décrit qui vont du financement politique effectivement au trafic de matières nucléaires. Encore une fois, moi, je pense qu'un jour on saura la vérité parce que trop de gens savent. Moi, je garde toujours en mémoire. C'était une phrase qu'avait prononcée André Tarallo, qui était le monsieur Afrique d'Elf Aquitaine. Et quand il a été jugé dans l'affaire Elf, il parlait d'une discussion qu'il avait eue avec Pierre Guillaumat, qui était le grand patron d'Elf, qui lui avait confié un peu les secrets de l'entreprise. Et il lui avait dit « Désormais, nous sommes deux à savoir, donc ce n'est plus un secret. » Et je pense que dans toutes les affaires, dès lors que au moins deux personnes savent, ce n'est plus un secret. Et ça veut dire que ça finira toujours par se savoir, un jour ou l'autre. Voilà. Après, c'est une question de temps.
Qu'est-ce que cet ouvrage, donc ce travail, ce projet vous a apporté ?
Alors, moi, en tant que journaliste, encore une fois, il m'a apporté... À la fois, ça comble des frustrations d'enquêteurs, parce que, encore une fois, quand on fait de l'enquête, on rassemble énormément d'informations. On en exploite en général, enfin, on en restitue une toute petite partie, je sais pas, peut-être 10%, bon, pas beaucoup. Donc, il y a souvent cette frustration de se dire, le sentiment d'avoir été incomplet d'être incomplet par rapport à une affaire. Et paradoxalement, je pense qu'avec la bande dessinée, on arrive à être plus complet. Encore une fois, dans la restitution, dans le récit, et la restitution d'une affaire aussi complexe que celle-ci. Donc ça, pour moi, ça a été plutôt un motif de satisfaction. Et puis, il y a aussi quelque chose, je pense, qui est très lié à notre époque, c'est qu'on vit une époque où, dans la culture commune de tout le monde, l'image a pris un rôle prépondérant. Et notamment dans la culture de l'information. Aujourd'hui, sans image, il n'y a quasiment pas d'information. L'information n'existe pas ou quasiment plus. Bon. Or, quand on fait des enquêtes, la plupart du temps, on a les informations, mais on n'a pas les images. On n'a pas de photos, de vidéos, d'une réunion qui s'est passée à tel endroit, ou de telle scène, ou de tel épisode, etc. Or, la bande dessinée permet de restituer ça, de le reconstituer de manière assez précise et juste quand même, tout en ne trahissant pas en ne dupant pas le lecteur, puisque quand on voit un dessin, on sait que c'est une vision subjective d'un auteur, d'emblée. On n'a pas une prétention objective. Et du coup, d'un côté, il y a cette vision subjective, de l'autre côté, il y a la promesse du contrat éditorial qu'on passe avec le lecteur, qui est de dire ce qu'on va vous raconter, c'est une histoire vraie, qu'on a vérifiée journalistiquement. Donc vous pouvez nous croire de ce point de vue-là. Et en même temps, on va vous donner une vision qui va vous permettre de comprendre les choses plus facilement parce que ça passe par l'image. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est tout le travail en fait, d'articulation entre le travail des journalistes, de la presse, et le travail des artistes, que sont les auteurs de bandes dessinées, qui mettent au service d'un récit, d'une histoire comme ça, d'une histoire vraie, qui mettent tout leur art au service de ce récit. Et ça, c'est intéressant, je trouve, dans notre époque.
Et parlez-nous donc un peu plus de votre collaboration avec Thierry Martin, qui a apparemment bien apporté sa plume aussi.
Oui. Encore une fois, ça fonctionne. Ce genre de collaboration fonctionne si chacun joue sa partition, son rôle. Je simplifie, mais en gros, le journaliste va apporter la matière brute, les informations, etc., le sérieux de son enquête. Et le dessinateur, lui, va apporter son art de la bande dessinée, son art de raconter des histoires en bande dessinée. Après, tout ça ne fonctionne que si on arrive à produire quelque chose en plus, c'est-à-dire si on arrive à vraiment travailler en symbiose et à créer un récit qui n'existe pas et qui permet de comprendre les choses. Voilà. Et donc qui n'est ni exactement de l'information, ni exactement de la bande dessinée, mais une troisième chose qui mêle les deux et qui permet aux gens de faire de comprendre une affaire. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec l'aventure de la revue dessinée. Avant de commencer cette aventure de la revue dessinée, moi, j'étais pas du tout... je connaissais un peu la bande dessinée comme ça, mais sans plus. Et j'ai compris à un moment donné, en faisant travailler les gens ensemble, que journalistes et dessinateurs, on pouvait arriver parfois à avoir une vraie symbiose et qui produit quelque chose de nouveau. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut, en tant qu'auteur, proposer au lecteur une autre dimension de ce que la bande dessinée peut faire. Voilà, en allant sur les terrains du réel, que ça soit du réel autobiographique à la Guy Delisle, à des choses beaucoup plus journalistiques, entre guillemets, comme ce qu'on a fait avec Thierry, et sur une palette très large. Et ça, c'est passionnant parce que là, on sort définitivement des petits Mickey. Encore une fois, on s'adresse à un public plutôt adulte, mais les jeunes aussi peuvent y trouver leur compte parce que, encore une fois, ça parle à leur culture. culture de l'image. Et voilà, et ça leur explique aussi ce qu'est la politique aujourd'hui, finalement. Parce que ce que raconte aussi cette histoire, c'est ça, c'est la coulisse de la Ve République. Et la coulisse, sans doute la plus sombre et pas très reluisante, mais il se trouve que la vie politique, c'est ça aussi. Voilà.
Enfin, vous avez des projets en cours à venir, d'autres justement, affaires d'État à mettre en lumière et en bande dessinée ?
Alors oui, je termine avec Jacques Rénal, le dessinateur, une adaptation d'un sujet qu'on a aussi publié déjà dans la revue dessinée en noir et blanc, qui est une histoire de la doctrine de la guerre révolutionnaire, donc un récit qui s'appelle « La septième arme ». Et que nous adaptons dans une version beaucoup plus longue, puisqu'il y aura trois fois plus de pages et donc beaucoup plus de matière d'information et de récits pour les éditions La Découverte. Et cet ouvrage sortira, si tout va bien, au printemps 2018.